Merci d'être fidèle à Europe 1, direct de Roland-Garros. C'est 19h24, à 15 jours du premier tour des régionales. Je reçois une femme engagée, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale, elle-même députée des Yvelines. Bonsoir Aurore Berger.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous à Roland-Garros pour venir dans ce studio. Vous avez dû présenter un sésame, c'est très réglementé. Vous attendez avec impatience, j'imagine, le pass sanitaire. Ce sera mercredi, ça va faciliter la vie de chacun en toute sécurité.
Oui, je crois que c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'on a tous envie, on aspire tous tout simplement au retour à la vie normale. La vaccination le permet, le facilite grandement et on le voit bien avec cette dynamique de vaccination qui progresse vraiment de jour en jour. Mais ce pass sanitaire, c'est aussi tout simplement la capacité que des lieux qui sont encore clos puissent tout simplement être rouverts avec aussi une sécurité sanitaire pour les Français. Et puis le pass sanitaire européen, qui est aussi essentiel pour que tout simplement on puisse à la fois rouvrir nos frontières, mais le faire là encore en toute sécurité, à la fois pour les Français qui pourront aller à l'étranger, mais aussi pour celles et ceux qu'on va pouvoir accueillir en France.
Ça va faire forcément débat dans les familles. Il y a toujours aujourd'hui un ou deux parents qui hésitent à se faire vacciner. Donc voilà, pour faire partie aussi de cette dynamique-là, il faudra qu'ils s'y résolvent.
Oui, mais je crois surtout que les Français, au tout début, on parlait beaucoup de ceux qui étaient réticents à la vaccination. Et aujourd'hui, on parle surtout de l'impatience à pouvoir se faire vacciner. Et on a vu qu'on a progressivement, en permanence, élargie. Mais on l'a fait aussi de manière très raisonnée, volontairement. Les personnes qui étaient d'abord les plus vulnérables, donc les personnes aussi les plus âgées. Et puis progressivement, on a étendu jusqu'aux adolescents qui vont pouvoir bientôt bénéficier de la vaccination. Ça a permis aussi de ne pas complètement engorger nos centres de vaccination, de réguler les choses et puis que ce soit beaucoup plus accepté par la population. Et moi, je me réjouis que par rapport vraiment au tout début de la campagne vaccinale, on disait cette campagne va échouer, ça ne fonctionnera pas, les Français n'adhéreront pas au fait de se faire vacciner, eh bien c'est un phénomène tout autre qui s'est passé.
Autre bonne nouvelle, et on peut s'en réjouir ensemble aussi, le constat que fait Bruno Le Maire dans le JDD aujourd'hui sur Europe 1 ce matin, l'économie française repart. Il se félicite d'avoir protégé l'économie française d'ailleurs.
Mais ça c'est évidemment quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que quand on a dit le quoi qu'il en coûte et le temps qu'il faut d'ailleurs...
Le concret on l'a aujourd'hui.
C'était ça, c'est-à-dire c'est tout simplement que quand aujourd'hui vous vous baladez dans les rues de France, vous n'avez pas porte close dans nos commerces, vous n'avez pas les restaurants, les bars qui ont dû fermer, tout simplement parce qu'ils ont été accompagnés, soutenus. Ils continuent d'ailleurs à l'être tant qu'ils ne peuvent pas rouvrir à 100% de leur capacité. Ça veut dire que vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au théâtre. Dans combien de pays au monde vous avez un tel maillage, par exemple, culturel qui a pu survivre de commerces de proximité, de bars, de restaurants, tout simplement parce qu'il y a eu un accompagnement financier de l'État, non seulement pour nos entreprises, mais aussi pour protéger nos emplois. Je crois que les Français, ils avaient aussi envie de ce retour à la vie normale et aussi de réinvestir ces lieux-là.
Il leur demande aux Français d'ailleurs de soutenir ces secteurs les plus malmenés parce que quand même beaucoup, hélas, sont tombés. Mais il y a cette ère de renouveau, vous avez raison, Aurore Berger, qui fait du bien. Et puis il y a l'appel du terrain, ce terrain que vous retrouvez en circonscription chaque week-end. Les citoyens que vous croisez, sont-ils las, sont-ils en colère, Aurore Berger?
Je crois que tout le monde aspirait à un retour, encore une fois, à la vie normale. Et le retour à la vie normale, c'est maintenant. C'est tout simplement pouvoir retrouver les siens, pouvoir retrouver sa famille, pouvoir retrouver ses habitudes. Et on a vu nos habitudes être profondément transformées. On a vu à quel point des sacrifices ont aussi été demandés aux Français, aux plus jeunes, notamment à nos adolescents, à ceux qui sont étudiants, qui n'ont pas vécu des années tout à fait normales. Passer son bac à l'heure du Covid, c'est pas quelque chose de si évident. Pareil, quand on fait ses études, quand on a sa première année à l'université. Et je crois que c'est ça ce qui était vraiment attendu. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est en fait on a réussi à tenir ensemble. Et parce qu'on a réussi à tenir ensemble, ben en fait, ça va mieux. Le pays va mieux. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement sorti de cette phase sanitaire? On voit bien que non, qu'il faut rester très vigilant, qu'il n'y ait pas de relâchement. Mais oui, on a le droit aussi parfois de se dire que ça peut aller mieux.
Oui, mais vous connaissez par cœur la politique, Aurore Berger. L'effet loupe sur le Rassemblement national, ce n'est qu'un effet loupe ou c'est une réalité que vous remontez aussi régulièrement comme parlementaire?
Vous savez, déjà, moi, le Rassemblement national, je le vois jamais. Je le vois jamais sur le terrain. On est en pleine campagne régionale et départementale.
Peut-être pas sur votre circonscription.
Ah, mais pas que sur la circonscription. Vous savez, le département des Yvelines, il est extrêmement contrasté. Il est aussi très urbain que très rural. On ne les voit jamais. Ce sont des gens qui ne sont pas des élus de terrain. Les conseillers régionaux du Rassemblement national, ils sont jamais sur le terrain.
Et oui, je vous parle des électeurs qui seraient tentés par eux.
Oui, mais les électeurs doivent aussi savoir, quand on prétend en permanence défendre les Français, il faut aussi être au bon moment pour les défendre. Il faut aussi être sur le terrain pour les défendre. Il ne faut pas uniquement être dans la petite phrase, il ne faut pas uniquement être dans la dénonciation. Et ce qui se passe en ce moment avec le Rassemblement national, il y a deux choses. un, ils font pas campagne autrement qu'une campagne médiatique. Deux, quand on regarde précisément celles et ceux qui sont investis, eh ben on se rend compte que le Rassemblement National, c'est la même chose que le Front National, c'est-à-dire une extrême droite, très claire. Il y a pas, enfin regardez là tout ce qui est sorti sur leurs candidats au départemental, au régional. Nous en Île-de-France, on a cinquième de liste à Paris, quelqu'un qui au lendemain des attentats ou qui au lendemain par exemple de l'assassinat de Sarah Halimi considérait, je cite, qu'il y avait des pleurnicheuses de la Shoah. Voilà quels sont les candidats du Rassemblement National. Ce sont des candidats d'extrême droite, donc c'est pas daté que de dire ça. C'est malheureusement aujourd'hui en 2021 ceux qu'ils continuent à présenter et à investir.
Mais alors la stratégie de la majorité, on envoie 15 ministres dans le Nord, on a les mêmes enjeux dans le Sud et on retire la liste de la majorité. Comment les électeurs peuvent se retrouver aussi dans ce jeu aujourd'hui qu'on a du mal à suivre ?
Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de clarté. Et ça, je crois que c'est ce que les Français attendent de nous.
Manifestement, oui.
Quelle est la politique que l'on mène au niveau national, au niveau régional, et quelle est la clarté que l'on doit aux électeurs.
Sinon, c'est l'abstention, et vous le savez.
Sinon, c'est le risque de l'abstention ou le risque du Rassemblement National. Ce qui s'est passé en région PACA, c'est un vrai choix de dire, à partir du moment où le risque est trop important que le Rassemblement National puisse gagner, alors oui, on préfère immédiatement travailler ensemble plutôt que de prendre ce risque-là. Et je crois que ça, c'est de la clarté. D'ailleurs, on est les seuls à dire que dans la moindre région, s'il y a un risque que le Rassemblement National puisse l'emporter, on est prêt, nous, à se désister. C'est-à-dire sans aucune, sans aucun marchandage, en fait. Mm-hmm. Où il n'y a pas de marchandage électoral qui vaille quand il y a principe. Le Rassemblement National. Moi, j'attends de voir que cette même discipline puisse s'appliquer aux Républicains. Mais enfin, clairement, on voit bien que les digues sont en train de sauter partout avec les LR. Mm-hmm. On le voit dans les idées qu'ils défendent. Guillaume Pelletier, quand même, il vient de l'extrême droite, donc quelque part, c'est pas anodin que ce soit lui qui en soit aujourd'hui le numéro 2 au sein des Républicains, mais aussi les digues, quand on voit...
Donc quand elle parle, pardon, de corps national, Marine Le Pen, ce matin, elle cherche à englober de manière assez stratège...
Ça existe déjà.
Ce camp-là.
De fait, ça existe déjà. Encore une fois, vous avez une élue ce matin, et qui n'est pas anodine, vice-présidente d'un conseil départemental, qui vous dit « Mais enfin, qui nous a demandé de refuser de parler avec l'extrême droite ? Moi, je ne sais pas pourquoi il faudrait refuser de parler avec l'extrême droite. » Ok, donc en fait, pour un certain nombre de personnes qui s'appellent encore les Républicains, parler à la majorité présidentielle est devenu plus infréquentable que de parler à l'extrême droite. Donc cette clarté-là, il faut qu'elle soit posée au moment des élections régionales et que les Français sachent que le choix qu'ils ont à faire, c'est aussi malheureusement, quand ils votent LR, d'assumer de voter pour des gens qui ont rompu un certain nombre de digues avec le Rassemblement National.
Un dernier mot, Aurore Berger. Emmanuel Macron est reparti en campagne sur le terrain, mais vous y êtes régulièrement depuis 4 ans maintenant. Est-ce qu'il écoute suffisamment ses parlementaires ? On parlait des élus qui n'ont pas été assez écoutés avant les Gilets jaunes. Est-ce qu'il vous écoute assez ? Il vous reçoit ?
Bien sûr. On est reçu régulièrement par le président de la République et on est une majorité. Évidemment, on travaille au quotidien avec le président de la République et avec le Premier ministre. Il est de facto...
Donc il n'est pas coupé de sa base, de sa majorité,
non,
Emmanuel Macron.
Non, et vous voyez bien d'ailleurs dans la manière avec laquelle on travaille qu'un certain nombre de propositions de loi, c'est-à-dire qui émanent profondément de la majorité présidentielle, ont pu aboutir. On en a parlé sur plein de sujets. Sur une meilleure protection des droits des femmes, sur le renforcement de l'IVG, sur la lutte contre la maltraitance animale, sur beaucoup de sujet, c'est parce que c'est venu des parlementaires que ça aboutit.
Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous dans ce studio d'Europe 1 à Roland-Garros à 15 jours du premier tour des régionales. Merci beaucoup.
Merci.